Mais écoutez tout d'abord quelques messages personnels.
Les carottes sont cuites, je répète, les carottes sont cuites. Le loup est dans la bergerie, je répète, le loup est dans la bergerie. Le groupe perdu va commencer, je répète, le groupe perdu va commencer.
Salut à vous à la recherche du groupe perdu, session 419, une émission musicale à géométrie variable produite depuis 2011, dont vous pouvez retrouver les podcasts sur le site www.rdwa.fr à la rubrique émission musicale. Pour l'émission du jour et celle de la semaine prochaine, on va s'intéresser à un mouvement, le mouvement Skinhead. Et à ceux qui les ont combattus avec les poings dans les années 80 sur Paris, un documentaire de 1 heure retrace cette épopée des chasseurs de skins. Un film signé Marc-Aurel Vecchione, sorti en 2009. L'émission du jour s'articule donc autour d'extraits de ce documentaire, entrecoupés de passages musicaux en lien avec la thématique du jour. Il y a 2 émissions au programme. Et pour celle du jour, nous sommes donc à Paris. Pour retracer un peu le décor, Paris début 80, le mouvement Skinhead arrive en France et s'apprête à défrayer la chronique pour la décennie à suivre. À coups de provocations, d'agressions et de crimes racistes vers le milieu des années 80, des bandes vont se former et réagir à ces agressions en contre-attaquant dans une guérilla urbaine pour le contrôle des rues de Paris. Ils s'appellent les Red Warriors, les Ducky Boys ou les Roddy Fox. Et les Parisiens les surnomment les chasseurs de skins. Leurs motivations sont simples, combattre le fascisme et les actes racistes par tous les moyens nécessaires, quitte à retourner contre leurs adversaires la violence qu'ils ont subie. La première partie de l'émission, celle du jour, s'intéresse à la période 1978-1985, où on voit la montée en puissance des skins et de leur idéologie. À partir de 1986, la riposte s'organise. Le début du film insiste à juste titre, car la confusion est grande aujourd'hui à ce sujet, sur l'origine du mouvement Skinhead. À la base apolitique et antiraciste, le mouvement Skinhead est né en Angleterre vers la fin des années 60, crâne rasé pour marquer leur différence avec les hippies, et échapper aux flics, fans de reggae, de ska et de rocksteady, des gosses issus de la classe ouvrière pour la plupart. C'était ça les Skinhead au début, absolument rien à voir avec l'extrême droite et les néo-nazis qui ont foutu le bordel à Paris dans les années 80. C'est à la fin des années 70 qu'une scission s'opère avec une branche qui va frayer avec le National Front, le Front National Britannique. À partir de là, la mouvance va se diviser en plusieurs camps totalement irréconciliables, les apolitiques, les néo-nazis et les antifascistes. Voilà le décor planté pour cette émission. C'est parti pour 1 heure de témoignages et d'immersion avec les chasseurs de skins de l'époque. C'est parti.
Yes. 1984, l'époque des battes, des coups de hache et des bastons. Descente à la calage, dans les squats, dans les bas-fonds. Sur la fontaine, y'a Verifa et gros Porky, c'est les fantômes. À l'époque, déjà des OGs. OG sur le boss, contrôlant comme des boss. Bagarre au café Coste et les batailles dans les postes. Nous, du Keyboy pour Orboy et les Asnés. On rentrait dans la guerre car les skins contre les châtelets. Bac de combat, couleur sur le bombers. Ma bête était en bois, elle s'éclate dans la stomba. Donc changement technique, intratech et je te nique vite. Car l'automatique, même si tu sors dans un pic. Du 13 jusqu'au hall, y'avait que de la guerre. Mais la plus belle des batailles, ça restera qu'est de la gare. Batskin s'est fait shooter par papy qui nous remontait le score. Et on shootait dans leur crâne comme si c'était un sport. Balle à ailette ou à sanglier. On écrasait leur petite tête comme dans un cendrier. On a conquis le hall et la dalle dans la fierté. Et même si plus des balles, carnal, hasta la muerte. Yes, Paris 13, Southside, OGK. Original Red Warrior dans la place.
Les premiers skinheads déboulent en Angleterre au milieu des années 60. Crâne rasé, jeans délavés et boots militaires aux pieds, ils sont une évolution des mods des dandies anglais amateurs de musique noire, de belles sapes et de scooters customisés. Chaque week-end, sur les plages de Brighton, les batailles rangées entre mods et rockers font des dizaines de blessés. Les plus violents des mods s'inventent un look plus adapté à la bagarre. Ces hard mods forment les premiers crews de skinhead. En 69, on en compte jusqu'à plusieurs centaines dans les tribunes des matchs de football. Pur produit de la classe ouvrière anglaise, il déteste tous les autres groupes, et notamment les hippies qu'il considère comme des gosses de riches. Fasciné par les voyous jamaïcains, ses premiers skinheads adorent le ska et le rocksteady. Les skins deviennent de la chair à fait divers, menaçants, ultra-violents et incontrôlables. Mais ces skins vieillissent, et la première vague skinhead échoue à l'orée des années 70. L'arrivée du punk réactive le mouvement. Comme autant des mods, les bagarres de rue radicalisent une partie des punks. Sham 69, Slaughter and the Dog ou Angelic Upstart écrivent la BO de cette nouvelle génération. Ils inventent un son bien à eux, la Oi pour Hey You, prélude à la bagarre en argot cockney. En France, les premiers skinheads apparaissent en 78 autour de la Fontaine des Innocents, dans le quartier des Halles à Paris. C'est le moment que choisissent Farid et Amour pour entrer dans la légende urbaine.
Il faut savoir que tout ce qui conditionnait le look et l'appartenance à une bande à l'époque, c'était d'abord, avant tout, dicté par la musique. Chaque musique avait sa tenue vestimentaire et plus ou moins ses codes de comportement. Mais le crâne tout tondu, au jour d'aujourd'hui, tous les mecs de banlieue ont le crâne tondu. À l'époque, il n'y avait que nous. Et je peux te dire que ça se voyait.
Les gens comme Farid, toute cette génération, c'est des gens qui étaient punks avant. Et qui, pareil, eux, mecs de banlieue, vont glisser dans quelque chose qui leur correspond plus. Plus riffeur, plus moins déglingué, moins... Voilà. Et en fait, eux... C'est vrai que c'est eux qui importent ça, la génération de Pierrot, Amour, Farid, Fan, toute cette équipe, là, pour la plupart, qui venait de Colombes. C'est eux qui importent ça. Moi, avant eux, j'en ai jamais vu.
Bah en fait, tout ça, c'est à cause d'un groupe. Il s'appelait Sham 69. Et c'est eux qui ont drainé le premier gros revival skinhead dans les années 80 en Angleterre. Et quand nous, on a commencé à écouter ça en France, la musique, c'était aussi péchu que le punk qu'on écoutait avant. Sauf que la dégaine était beaucoup plus... C'était beaucoup plus menaçant. Les fringues, c'était propre, c'était carré. Et puis, les gens avaient peur. Ils voyaient arriver, nous, on montait à 7-8 dans un wagon de métro, tout le monde se taisait. On arrivait devant un concert, il y avait 300-400 personnes. Tout le monde regardait ses chaussures. Donc nous, c'est ce qui nous a plu dedans. Et puis, il y a aussi le fait que c'était quand même assez violent, quoi. Et ça me plaisait.
J'aime quoi, c'est mon Dieu et la bagarre, ma maison et la rue quoi. Tu viens me faire chier, tu manges. c'est avec une musique derrière, mais les potes, la bière, la fête, et personne ne nous marche sur les pieds. Et pas raciste, quoi.
Au départ, le mouvement originel, la politique, en 60, on s'en bat le coquillard. On s'en bat le coquillard. L'important, c'est la zic, les fringues, les potes. Et on commence à pressentir donc les dérapages d'Angleterre vers l'extrême droite.
Les skinheads se politisent au début des années 80. La violence sans but des skins de la première heure se transforme en culture de haine. Les partis d'extrême droite se développent dans toute l'Europe. Draguant le monde ouvrier brisé par la crise économique, le Front National anglais propage son message raciste et nationaliste qui gagne bientôt les skinheads.
It's left of your Academy Street. That's all crap. Skinheads, they're very short hair. They are National Front. They're fascists. They create troubles. They're the ones that were behind the trouble in Belgium, weren't they? During the football match, if you remember.
Are you proud of your country?
Yeah, Britain.
No,
niggers and fascists.
Full of
niggers and fascists.
Immigrants. You hate them. Do you hate them?
Yeah.
Communists.
Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé.
En France, le Front National n'est pas en reste. Mais d'autres partis encore plus radicaux vont aussi trouver un terrain fertile chez les skinheads. FAN, Occident, GUD, GNRB, Union Solidariste et à partir de 87, le PNFE en province enrôle des skinheads à tour de bras.
Ces mouvements d'extrême droite subissent tous le même phénomène. Ils sont laminés au niveau de l'opinion publique, au plan parlementaire, car ils ne représentent pas grand-chose au niveau parlementaire, donc ils s'expriment dans la rue et la violence. C'est un phénomène qu'on retrouve en Italie et en Allemagne en particulier.
Alors qu'avant, l'extrême droite était un peu limitée au mouvement étudiant, c'était des bourgeois. Là, on va avoir un retour des prolos d'extrême droite. Chose qui n'existait pas avant. Prolos d'extrême droite égale gens qui traînent dans la rue. Ce look viriliste va tomber parfaitement en phase avec les aspirations de prolos qui sont perdus, quoi. Et que du coup, alors qu'avant, le punk au départ a quelque chose qui est quand même en opposition avec la société bien pensante, qui se situe dans une veine qui est proche de l'anarchisme, des mouvements d'extrême gauche et du situationnisme, bah en fait, la forme elle-même, qui est une musique violente, va pouvoir être récupérée par les groupes d'extrême droite.
Par exemple, eux, ils suivaient tous un groupe qui s'appelait Screwdriver. Moi, Screwdriver, j'ai eu en main le premier 45. C'était un groupe de rockers de banlieue, avant qu'ils commencent à se réclamer d'une espèce de néo-nazisme.
La gauche, tu l'as dans le cul, tu n'es
avec un pion, un petit mouton. À 50 ans, tu n'en peux plus et tu crèveras comme un petit con. Allons, enfants de la patrie, un petit coup de bite à location. En bon français, tu te reproduis, t'es qu'un brave type, t'es qu'un pauvre con. Alerta, antifasciste. Les Roms, les Gitans sans papier, tu veux tous les carchériser. Au nom de ton drapeau français, au nom de ton identité. Les immigrés, on les vengera, et par les couilles on te pendra. Tu nous feras plus marcher au pas, une potence pour ta gueule de rat. Alerta, antifasciste. Les anarchistes ne sont pas morts, on te rejoue à la commune, avec les gens qui couchent dehors et tous les pauvres qui ont pas la thune. Tu la boufferas ta Marseillaise quand sonnera la révolution, ta tronche comme celle de Louis XVI, au bout d'un pic t'auras l'air con. Alerta, antifasciste.
Est-elle si importante dans votre mouvement ?
Pour nous, cela concerne beaucoup de gens plus jeunes que les politiciens ne peuvent pas atteindre. Car beaucoup de gens trouvent la politique barbante et certains aspects le sont effectivement. Mais aller à un concert et écouter un groupe avec lequel vous êtes d'accord, c'est beaucoup plus amusant que d'aller à une réunion politique. Et nous pouvons atteindre ainsi beaucoup plus de gens. Et qui sait s'ils écoutent les paroles et qu'ils y croient ? Alors ils vont peut-être s'impliquer dans le parti nationaliste au sein de leur propre pays.
Les londoniens de Screwdriver prennent la tête d'une nouvelle génération de skinheads fascinés par l'idéologie nazie. En France, prenant modèle sur les Anglais, les Evil Skin et leur chanteur Sniff, les Tolbiac Todds, Brutal Combat, Booker 84 ou Légion 88 incarnent ce courant. Leurs actions ne se limitent pas à la musique. Dans leur sillage, le nombre des exactions racistes explose au milieu des années 80. Pour les journaux, le skinhead devient l'archétype de la brute raciste. Mais dans la rue, les punks et les militants antifascistes sont leurs cibles favorites.
La réalité du moment, c'est effectivement un mouvement skinhead qui, en France comme partout en Europe à ce moment-là, a été complètement radicalisé à l'extrême droite. Et là, je vais être explicite là-dessus. Les mecs qui aujourd'hui disent « j'étais skin en 85 mais j'étais pas faf », c'est soit des mecs qui n'étaient pas skin, soit des mecs qui mentent et qui n'assument pas. Parce que moi, je peux te dire qu'à l'époque, tu avais 99,9% des skins sur la France comme sur l'Europe, et en particulier l'Angleterre et l'Allemagne, qui étaient nazis. Enfin, tu vois, ça, c'était une réalité qui était indiscutable.
À l'époque, il y avait une distinction. Il y avait les skins nationalistes et il y avait les skins national-socialistes. Les skins nationalistes, ils portaient le drapeau français. Les skins national-socialistes, ils portaient la croix gammée. La rune de dalle, plus exactement, une espèce de triangle avec deux pattes en dessous.
Les bandes racistes se multiplient. Nazi Clan au Luxembourg, FIAP à Saint-Jacques, Légion 88 à Juvisy ou Tolbiac Todds quadrille Paris.
Donc la plupart des Tolbiac Todds, ils portaient des Doc Bordeaux avec des Bombers verts et un drapeau France ici. Ils avaient un groupe de musique et ils avaient un badge. J'en ai même encore quelques-uns en collection puisque je faisais la collection des trophées de skins qu'on arrachait. Leur couleur, c'était la carte de la France avec un crapaud qui l'a grippé comme ça. Et le crapaud, il avait un t-shirt blanc et une paire de bretelles avec des Docs. Ça, c'était les Tolbiac Todds, donc Bombers verts et tout ça. Et leurs ennemis, leurs ennemis, entre guillemets, ils s'aimaient pas, quoi. C'était les skins du Luco. Ils s'appelaient le Nazi Clan et c'était tout. Ils se traînaient sur Luxembourg, Saint-Michel et tout ça, ils foutaient la merde là-bas. Et ces mecs-là, c'était des nazis.
Bon, les communistes, tous les gauchistes, les capitalistes ont la télé, la radio, les journaux, ont l'argent avec eux, nous, on a nos points avec nous. Voilà pourquoi on aime la violence.
Batskin, c'était un peu, comme on pourrait dire, leur leader charismatique, entre guillemets. Il y avait Jabba aussi qui était quand même un sacré tapeur. Il y avait quand même à l'époque, faut le dire, cette génération de skins, c'était des bagarreurs, des tapeurs, des cogneurs.
Ah oui. Ah oui.
avoir leur territoire. Ici, à Saint-Michel, ils traînent toute la nuit cherchant la bagarre.
Et on va pas se mentir, c'était la tribu dominante à un moment donné, quoi. C'était vraiment la terreur de base quand tu sortais, quand t'avais été punk à 15 ans, tu vois. Tu voulais te balader dans Paris, t'étais obligé de faire un parcours sur ton plan de métro parce qu'il y avait des endroits que c'était même pas la peine d'essayer de traverser, quoi. T'évitais les Halles, t'évitais le Luxembourg, t'évitais les plus de clients courts le week-end. Enfin, tu vois, c'était un peu compliqué, quoi.
Après, il y en a quand on commence à être vraiment sérieux, faire des descentes, faire des ratonnades, faire des trucs... Le truc le plus facile, c'était d'aller dans les concerts où il y avait les opposants, quoi. Genre tout ce qui était Redskin, tout ce qui était punk. Et c'est là que ça commençait à faire une espèce de mythologie, un peu comme au Moyen-Âge, la grande peur et tout, mais c'était dans les concerts.
À l'époque, il y a tellement peu de concerts que de toute façon, tout le monde s'y retrouve. Et des fois, les punks se retrouvent dans les concerts qui n'ont rien à voir avec la choucroute, du New Wave, et les skinheads aussi. Et évidemment, bah, dans ces cas-là, t'as un clan et un autre clan. Un clan étant en plus dans un rapport d'affirmation qui passe par le rapport de force, bon, traditionnellement, les punks se font taper par les skinheads. Ça, c'est un grand classique.
Nous, les skins, on n'a aucun rapport avec les punks. Les punks, c'est des voyous, nous pas. C'est des drogués, c'est des connards. Musicalement, c'est nul en plus. Voilà, quoi. Nous, on n'a aucun rapport avec les punks, quoi.
Qu'est-ce qui se passe quand vous croisez une bande de punks dans la rue?
Ça fait boum.
La scène punk française est alors en ébullition. Face aux attaques des skinheads dans les squats, des groupes comme les Berruriers Noirs, Guernica, Led Thénardier ou Ludwig von 88 organisent leur propre sécurité.
Donc si tu veux, il y avait à ce moment-là un bouillonnement alternatif qui était musical, politique, social, et qui avait comme dénominateur commun le fait d'être né et de vivre principalement dans la rue.
Le fait qu'il y ait des groupes aussi politisés joue beaucoup, parce que la vague, ce qu'on appelle le rock alternatif quand même, elle déferle un peu dans tout le pays, avec des groupes qui ont quand même une conscience politique quand même diffuse et importante, dans une optique antiraciste, mondialiste, internationaliste en tout cas, qui a une dynamique beaucoup plus importante à l'époque en tout cas que les mouvements de repli sur soi, que les fachos et juste.
Comment admettre que...
différent, le communiste, je suis de leur côté. L'anarchiste et l'immigré, je suis de leur côté. Le roi gros, le cerveau, je suis de leur côté.
Anti-racist soldiers, we are the freedom fighters. Anti-racist soldiers, we are to chase them all. Anti-racist soldiers, we are the freedom fighters. Anti-racist soldiers, we are to chase them all.
Et donc on voit émerger donc des gens avec un fort ressentiment de ne pas se laisser faire.
Et on en arrive à se dire, bon, il y en a plein le cul, quoi. Les FAF, ils font vraiment trop chier, on en a marre de subir leurs lois, et donc il est temps qu'on s'organise nous aussi en bande, une bande radicale qui ne se chierait pas dessus, et dont l'objectif serait l'antifascisme radical et faire changer en gros la peur de camp, quoi.
Les Red Warriors naissent à l'usine, un squat de Montreuil fin 85. En quelques mois, ils deviennent la bande la plus organisée dans la lutte contre les skinheads néo-nazis.
La rue est un terrain, hein, au même titre que les urnes, et nous, on est des gens qui avons vécu dans la rue et qui, par conséquent, l'avons à cœur et ne comptons pas leur abandonner. Et c'est tout, quoi. Je veux dire, il n'y a pas à aller plus loin, on ne discute pas avec l'extrême droite. On ne nie pas l'utilité de la violence dans certains cas extrêmes, mais on estime que l'extrême droite est un cas extrême, quoi.
Et voilà, c'était groupons nos forces pour être plus balèzes ensemble, quoi. La création des Red Warriors, c'est une rencontre entre plusieurs personnes. Déjà, moi, je connaissais Jeff depuis... on se connaissait à l'usine, on traînait déjà ensemble, et Jeff, lui, connaissait Julien. Et on s'est rencontrés avec une quatrième personne qui s'appelle Nano. Ils ont monté le truc et c'est parti là-dedans. Au début, on était quatre. Après, on était de quatre, on est passé à sept. De sept, et à la fin, on a fini à 14.
Et en fait, très vite, si tu veux, on part dans un délire, tourner en caisse et défoncer les mecs, tu vois. Parce que pour nous, vu ce qu'on avait subi, vu le discours que tenaient ces mecs-là, vu les histoires qui se trimbalaient sur les bandes de skin faf les plus tendues, des histoires de viol, de tabassage, de lynchage et compagnie, nous, les défoncer, pour nous, c'était, tu sais, acte de salubrité publique. Chaque Red Warriors, donc Red Warriors guerriers, c'était on était des guerriers. Chaque Red Warriors pratiquait une discipline et se devait de gagner au moins un titre de champion dans chaque discipline. Je sais que Julien était champion de France de full contact, il y avait Franck qui était champion de France de Kung Fu, il y avait Scan qui était champion de France de boxe française, il y avait moi qui était champion d'Europe de Kung Fu, de boxe chinoise, de Santa.
Ouais, regardez, tu
vas-y, présente. Alors.
Il y avait aussi Bébé Desbois qui est quand même monté jusqu'à un championnat d'Europe de kickboxing mais qui l'a perdu. Bon, bref, on touchait tous aux arts martiaux, aux sports de combat, on était connus pour ça. Donc on avait une certaine discipline de vie, une hygiène et des règles.
Dans les mythes fondateurs, j'ai envie de dire, on va l'appeler comme ça, il y a effectivement cette fameuse descente au Baldiz. Cela s'appelait la Java maintenant, un truc comme ça. Bref, à l'époque, ça s'appelle le Baldiz et tous les jeudis soirs, il y a des soirées qui s'appellent Acide Rendez-vous. Et on a des potes, donc Nano et Jeff, qui allaient régulièrement aux soirées assis de rendez-vous. Et un jour, bah, ils se pointent et ils tombent sur une bande de feufa et ça se passe super mal. Ils se font limite mettre à l'amende parce que les mecs sont super nombreux. Et les mecs disent « Ouais, ici, c'est chez nous. » Voilà, quoi. Là, ça va être l'occasion de débarquer dans un endroit où les mecs pensent que, tu sais, ils sont tranquilles et où rien peut leur arriver. Et on va leur montrer que ça, c'est fini. Voilà.
Ce qui a été une des premières réelles offensives face au mouvement skinhead où Pascal de Juvisy s'est fait décoiffer sa raie. C'était un skin, il avait une raie sur le côté, tu sais, comme Adolf Hitler, et rasé à blanc sur les côtés. On l'appelle Pascal de Juvisy. Donc c'était les Légions 88 et toute la clique, là. Et les Red Warriors, ils sont allés, ils ont tous mis Bombers retournés, c'est pour ça, pour se reconnaître face au skin. C'est comme ça que la légende du Bombers retourné est née.
C'est pour ça que je dis que c'est un mythe fondateur, parce que c'est vraiment la première descente des Red Warriors en tant que bande constituée. Alors voilà la descente, on est tous morsous, tu sais, parce que bon, c'est quand même fausse de... au vin blanc. On est dans une Citroën Visa, et on est sept dans la voiture.
Il y en avait même qui étaient dans le coffre.
Savoir que si c'est pas toi qui descends leur ouvrir la porte, ils peuvent pas sortir de la voiture, tu vois.
Et quand ils sont arrivés, ils ont foncé en caisse, ils sont tous sortis avec les battes de baseball et en bombant orange, ils ont tout déménagé.
Alors, la légende veut que les keufs, que les flics aient été prévenus par les FAF. Mais bon, ça, c'est, ça reste à prouver. Enfin, bon, toujours est-il qu'en 20 secondes, t'as des CRS qui sortent de tous les côtés, ils bouclent le quartier et on se fait tous pécho.
Nano s'est fait coincer dans une entrée d'immeuble et ils l'ont attaché. Il s'est rendu, hein. Il a posé son arme, il a dit je me rends. Ils l'ont attaché et ils l'ont coincé contre l'escalier et ils lui ont cassé toutes ses dents. Quand je dis toutes ses dents, Nano, ils lui ont cassé toutes ses dents. Et à l'époque, il avait 17 ans ou 16 ans, ils lui ont cassé toutes ses dents.
Et manque de bol, ils le savent pas, mais il est mineur, tu vois. Donc imagine, on arrive au commissariat en ruine. Moi, j'ai 18 ans depuis genre 6 jours. Lui, il est encore mineur, il a genre 16 piges, tu vois. Et il est genre surfoncé, les dents cassées et tout. Enfin, tu vois, donc. Et on se retrouve en cellule, on est 7, dans une toute petite cellule. Et en face, ils ont pécho 3 feux fins. Et t'as le commissaire de police qui descend avec National Hebdo, tu vois, à l'époque. La une, c'était fier d'être français. Et il fait, bon alors, c'est qui les FAF ici, tu vois. Alors les mecs font c'est nous monsieur, c'est nous machin. L'autre il arrive, il sort la une du journal, il fait comme ça, il leur monte National Hebdo, le commissaire, tu vois, avec tous les condés derrière. Et genre il arrive, il tape avec le journal contre la grille où on est tous entassés derrière. Il fait alors c'est vous les rouges et tout, tu vois, il commence à nous brancher, il part dans un délire. C'est quoi, moi et mes collègues, on pose nos plaques et on vous prend un par un et on se tape et tout. T'sais.
Les renseignements généraux sont acharnés sur nous, la police est acharnée sur nous, la police est aussi acharnée sur les skins en certaines occasions, je dirais pas le contraire, mais quand même, on va dire que les forces de l'ordre étaient entre guillemets un peu plus tolérants pour les skinheads pour certains trucs. J'ai vu des cas où dans des descentes, ils ont relâché des skins plus loin avec leurs
morceaux. Et moi je dis écrasons-le, strangulation, tranchons-lui la gorge. Je ne voudrais pas les décevoir. Nous lui ferons tout cela.
Ils tombaient sur une voiture de flics banalisée. Après, ils nous ont arrêtés. Ils nous ont fait, je porte plainte. Ils ont fait, ouais, vous porterez plainte un autre jour. Fait, nous deux, les deux, on les embarque. Et puis, ils nous ont ramenés chez nous. Et puis, tu as fait, dis à mon copain, toi, ton mariage programmé, c'est bon pour une fois, mais ça passera plus la prochaine fois. Il fait, t'as eu de la chance que c'est nous. Et puis, après, il nous a fait, bon, allez, c'est bon, ils ont sorti une carte du Front National, allez-y. Il a fait, sortez plus maintenant. Et puis, c'est tout.
Voilà, ça, c'était l'état de la réalité de la police de l'époque. Et donc, elle est légendaire, cette descente, si tu veux, parce que c'est la première, qu'on est tous gamins, et que c'est la première fois qu'on a les bombeurs à l'envers, c'est la première fois qu'on est masqué, et en plus, on a affaire à des mecs vraiment qui sont des vieux de la vieille et qu'on leur met une volée, quoi. Voilà, mais bon, si tu veux, militairement parlant, c'est pas vraiment un triomphe, puisqu'on se fait tous pécho. Rico, il prend 2 mois de ballon ferme, enfin, tu vois, parce que c'est le plus âgé, et bref. Mais bon, après, il y en a eu 8000 autres, mais un tout petit peu mieux préparé, quoi.
Parrain du mouvement Redskin, leur fait d'armes suscite des vocations dans toute la France. Les Redskins français empruntent leur nom à un groupe de musique anglais proche des partis de gauche et de la Ligue anti-nazie. Les Redskins arborent souvent l'étoile rouge ou la faucille et le marteau de l'Union soviétique. Mais ils portent aussi les couleurs de l'équipe de football américain de Washington, les Peaux Rouges. Parmi ces Redskins, on trouve aussi bien des jeunes punks que des skinheads se revendiquant de l'esprit des origines, voire des jeunes très proches de la culture hip-hop naissante. Bombers de skinhead, jeans avec revers des rockers, bottes militaires ou baskets de rappeurs, le look des Red Warriors illustre parfaitement ce nouveau golem urbain.
À l'époque, t'avais plus, parce que bon, c'est vrai qu'on a... le mur de Berlin n'était pas tombé, t'avais encore la force du pays de l'Est. Tout le monde se revendiquait communiste, mais bon, moi je vois tous mes camarades, ils étaient beaucoup plus libertaires que communistes. Parce que tu les retrouves plus avec dans les milieux situationnistes, avec des anarchistes, qu'avec le PC, quoi. C'est l'affiliation avec le PC, elle est inexistante, quoi. C'est, pour nous, c'est déjà des Stahl, c'est déjà des FAF, c'est... Donc on est beaucoup plus libertaires que communistes.
Les Berruriers et leurs messages libertaires sont en première ligne face aux attaques des crew skinheads néo-nazis. Les Red Warriors assurent leur service d'ordre.
Donc les Berruna, ils ont vu qu'on avait... nos actions dans la rue ont répercuté tellement fort dans la communauté alternative qu'ils ont choisi d'avoir les Red Warriors comme groupe de sécurité. Et ça a été toujours une petite tradition que les Redskins faisaient la sécurité des groupes alternatifs depuis Rock à l'usine, c'était depuis l'usine de Montreuil.
Écoutez, jeunesse de France, soyez unis pour gagner. L'avenir, c'est pas la violence, mais la solidarité. Youhou ! France, soyez unis pour gagner. L'avenir, c'est pas la violence, mais la solidarité.
Et en l'espace de quelques mois, tu sais qu'au concert, on te dit ouais, il y a les Red Warriors qui seront là. Tu sais que voilà, pas de problème, les FAF, rien qu'à l'évocation de ce nom, ils viendront pas, quoi.
C'est clair que le ménage qui a été fait à cette époque-là dans la scène a été salutaire. C'est ça qui a fait que les concerts ont pu être sécurisés d'une part, passer avec une ambiance justement festive et une ambiance où les gens se retrouvaient, ont rencontré d'autres gens, se sont dit tiens, je suis pas tout seul dans ce monde, il y a d'autres gens qui partagent les mêmes idées que moi. Et bon, cette dynamique, une fois qu'elle est enclenchée, que ça touche suffisamment de gens, c'est un rouleau compresseur.
les suspects cuisent dans les fours du gouvernement. En Europe, les rebelles croupissent dans les bunkers de l'isolement.
À la fin des années 80, la réaction antifasciste n'est plus uniquement l'apanage des punks. Certaines bandes de rockers déjà formées à cette époque comme les Asné, les Docker Boys ou les Crazy Boys se convertissent à la guerre anti-skin. Mais c'est les Ducky Boys, une bande de rockers emmenée par Rocky, qui va littéralement nettoyer les Halles, le fief historique des crânes rasés. Arborant le drapeau américain sur leurs bombers et la croix celtique amputée d'un bras formant leurs initiales, DB, les Ducky Boys inventent l'expression « chasseur de skin » qu'ils taguent comme un slogan.
Les Ducky Boys, nous n'étions pas plus de 20. Nous pouvions ramener une cinquantaine de personnes. Je ne vais pas aller jusqu'à des exagérations. Nous avions des affinités avec des groupes de rap, comme avec des groupes, comme tu as cité, les Red Warriors ou les Rudy Fox et bien d'autres.
Nous, les Ducky Boys, en fait, on traînait dans les rues. On était un petit peu partout, mais notre kiff, en fait, c'était surtout d'aller dans les concerts où il n'y avait que des Nuskis, quoi. Dès qu'on entendait qu'il y avait un concert ou voilà, il y avait certains groupes de skinheads, bon, on y allait. On pouvait être sûr que voilà, on y allait. On était tout le temps là.
Depuis 1986, par l'intermédiaire du maire de Paris, qui était premier ministre à l'époque, il n'y avait plus de concerts skinheads en Île-de-France. Dû aux violences. En plus, ces abrutis, ils se bagarraient entre eux, ils se grillaient entre eux. Et donc, ils se sont, au fur et à mesure, mis dans des concerts où ils pouvaient quand même pogoter et se bagarrer entre eux. C'était des concerts du style Meteors, en rockabilly, assez dur, pur. Et Bad Manners, qui, bon, c'était du ska.
En 88, le concert des Bad Manners se termine dans une bagarre générale entre Skin et Ducky Boys. Le concert des Meteors, deux ans plus tard, provoque un affrontement violent entre les Ducky Boys et une partie du noyau dur des Skin parisiens.
On faisait un carton et on repartait, quoi. On lâchait des tracts, Ducky Boys, et on repartait en victoire, quoi.
Welcome in this house, stop
les Ducky Boys, nous avions le drapeau américain, mais plus pour revendiquer le mouvement des années 50, le mouvement rock'n'roll 50s.
Nous, en fait, on est les descendants des Black Panthers et des Assassins, qui, eux, cassaient des rebelles, qui étaient des rockers racistes, mais qui portaient en fait le drapeau confédéré.
Les bandes de rockers de la fin des années 70 ont été les premiers à mener la guerre contre les gangs racistes en France. Les Ducky Boys se revendiquent des Asnés et des Black Panthers. Pour ces rockers noirs ou arabes, fascinés par les héros noirs du rock'n'roll et les Black Panthers, l'ennemi ce sont les rebelles, des rockers racistes qui paradent avec le drapeau des confédérés sudistes sur leur cuir.
En boîte, les Panthers sont toujours les plus résistants des danseurs. Avec les filles, ils sont tantôt gentlemen, tantôt machos. Mais quand ils découvrent que ce rebelle et sa bande sont venus écouter la musique du groupe suivant, la tension monte. Parce qu'ils ont été longtemps pourchassés et agressés par les bandes racistes de rockers blancs appelées rebelles, ces amateurs de rock'n'roll noir et du swing de l'après-guerre se sont regroupés au sein d'une bande très structurée et très entraînée, contrôlée en douceur par Grand Jack, 18 ans et demi. Au puce, ce jour-là, les Panthers ont rencontré quelques rivaux rebelles et dégradé l'un d'entre eux, dont l'insigne sudiste est une provocation raciale. Toujours à portée de la main, le peigne, les papiers et le coup de poing américain.
Alors, bon, il y a eu le problème des rebelles, quoi. Alors, on s'est dit, bon, ben, comme il y a des rebelles qui attrapaient d'autres noirs, quoi, et puis ils tapaient, bon, alors, nous, on s'est dit, on va se regrouper. Nous, donc, on en repère un, ben, on va le voir, quoi. On le retire ses couleurs. Bon, ben, s'il bouge un peu trop, ben, on va être obligé d'agresser, quoi.
Retire-le tout seul,
le truc. D'abord, un truc pour l'enlever, alors.
Arrache-le, ouais. Qu'est-ce que tu veux?
Faites des constats, vous vous êtes branlé sur la théorie extra. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que vous avez décidé de vous bouger? Je te parle pas d'être énervé sur un disque, je te parle de s'organiser, de prendre des risques. Lutter dans la vraie vie, pas de l'argent que je prédis, c'est maudit de ne penser qu'à ses soucis. Faire preuve de solidarité, c'est gagner. Être là physiquement mieux que la charité. Je t'interpelle, j'ai rien à gagner, à part des critiques de la part des résignés. Me parle pas de malheur, on en est tous là. C'est pas de l'indifférence, mais ne pousse pas. Ensemble on est plus fort, pas un putain de mythe. J'ai rien à vendre, pas un député politique. Partout ça brûle, ça tire, ça dégénère. Ils s'organisent pendant qu'on parle, les regards verts. Allez, vas-y, viens, viens. Allez, vas-y, viens, viens. Réponds à la violence par la violence, frère. Qu'est-ce qu'on attend pour envoyer les papes en enfer? Allez, vas-y, viens, viens. Allez, vas-y, viens, viens. Je te demande pas de renoncer au personnel. Me sors pas ton excuse de faux rebelle. Tu stresses, tu pues, t'essayes de te justifier. Mais au final tu bugs, t'as rien à rétorquer. Assumer de s'en battre, c'est dur, j'avoue. C'est pas un petit bourgeois qui parle, tranquille, un coup. T'es mou du genou, tu cavales comme un gnou. Je te martèle, t'es fou, tu t'enfonces comme un clou. Ok, on passe le jugement, l'intention. Mais à force de rapper, t'oublies l'action. Dommage, confortable, j'avoue. Toujours les mêmes têtes qui sont dans le coup. Voyons, un peu de sérieux, rien ne sert de faire le voyou. T'es pas crédible, t'as jamais jeté un caillou. T'es pas black, t'es white, t'as jamais connu le bloc. Un autocollant, c'est pas une troupe de choc. Partout ça brûle, ça tire, ça dégénère. Ils s'organisent pendant qu'on parle, les regards verts. Allez, vas-y, viens, viens. Allez, vas-y, viens, viens. Réponds à la violence par la violence, frère. Qu'est-ce qu'on attend pour envoyer les papes en enfer? Allez, vas-y.
Contemporains des Panthers, les Asnés sont proches des Ducky Boys dès leur début. Les patchs portés par les Ducky sur leurs Bombers sont un hommage revendiqué à leurs aînés.
C'est la raison pour laquelle nous, en tant que Ducky Boy, on portait le drapeau américain. Avant d'être Red Warrior, j'étais aussi Ducky Boy à une époque. Les premiers à porter les drapeaux américains, c'était les Black Panthers. Donc on tient toutes nos traditions, en fait, nos origines des Black Panthers.
Mais on se connaît tous entre nous, on se connaît tous. Parce que, si tu veux, définition, on est là pour la même but, tu vois. Notre but, c'était quoi? C'était les skinheads, et les fachos, les belreux.
Les skinheads, moi, je n'ai pas trop connu. C'est moi, c'était les rebelles, quoi. Ceux qui étaient à Vincennes. voilà quoi, c'est eux que j'allais faire plus avec eux quoi, qu'avec des skinettes.
Il y avait beaucoup de fachos là-bas, il y avait beaucoup de rebelles, tout ça. Ça tapait grave.
Seule trace filmée de ce groupe mythique parmi les chasseurs, un film tourné en 88, Fury Rock. Les Asnés y jouent leur propre rôle face aux Crazy Cats, une bande de rockers créée pour l'occasion et composée des Red Warriors et des Ducky Boys.
Ils vont me le payer, ces bâtards.
On va vous déchirer, bande de clair.
Vous
êtes devenus con, quoi?
Il est beau, venez pas le chercher, les gars.
Pour qui? T'as défoncé ou quoi?
Ça suffit, les mecs, y'en a marre de vos conneries.
Toi, va te faire foutre. Il bout, sinon on vous encule. On va vous défoncer.
On s'arrache, les gars.
Quoi? On peut plus délirer maintenant?
On se tire comme des baltringues?
Tony va nous prendre pour des bouffons. Putain, on va pas s'arracher comme ça.
Faites pas chier. On s'arrache pour le moment.
C'est pas bon. On se reverra, les mecs. Préparez-vous pour la promenade.
Comme tous les samedis, au marché aux puces, les Ducky Boys contrôlent les promeneurs. Ils vérifient les insignes, les badges et même les paroles. Au moindre doute sur l'opinion politique de quelqu'un, ils frappent.
Arrêtez, arrêtez.
Dès lors, Red Warriors, Ducky Boys et autres groupes de chasseurs occupent le terrain. Dans la rue, la violence utilisée par les skinheads s'est retournée contre eux.
Et à partir de ce moment-là, je sais que les feufas, ils ont commencé à prendre conscience qu'il y avait des mecs en face, des mecs solides, des mecs organisés. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là que ça a commencé à bien chier dessus, se dire, voilà, il y a des groupes qui sont organisés, ils vont nous fracasser.
Il y a ceux qui disparaissent corps et bien, tu vois, genre, parce que c'est pas un engagement plus politique que ça, et que le fait de se faire défoncer par rapport à leur look, c'est un truc qu'ils sont pas prêts à assumer, parce qu'en fait le look, ils en ont pas plus, enfin ils en ont rien à carrer, le délire feufa, ils en ont rien à carrer non plus. En fait, c'était surtout traîner en bande qui les branchait, et ils sont pas prêts à assumer de se taper, de se faire défoncer pour ça. Bon, ça en élimine déjà une grosse majorité, et reste après, effectivement, bah, très rapidement ne reste que ceux qui sont vraiment des mecs convaincus, militants, et qui s'organisent.
La société multiraciale est un échec parce qu'il y a des opposants à ce système. C'était un bon système, il n'y aurait pas d'opposants, le mouvement skin n'existerait pas. Ce mouvement de réaction à cette société.
Donc vous allez continuer?
Oui, ils ont une culture, une histoire comme ont les Zoulous, les Maasai, les Japonais et les Chinois. Nous voulons la défendre. Nous sommes contre l'immigration qui métisse notre culture.
Quitte à taper sur les immigrés.
Quitte à les taper s'il le faut pour se faire connaître et pour se faire comprendre et entendre.
Donc ce qu'il a fait, Badskin, il a été malin. Il est parti voir chaque groupe, et dans chaque groupe, il a passé un message, comme quoi il voulait une unité, un rassemblement, puisque nous, en face, on est en train de faire quelque chose de très puissant. Il avait vu que la chaleur en face, que les Ducky Boys, aussi bien les Asnés, aussi bien les Red Warriors ont commencé sérieusement à s'occuper de leur cas par cas, à commencer à vraiment faire des descentes actives, qu'on avait déjà marre à pas mal de groupes. Ils ont commencé à se dire, maintenant, c'est parti, maintenant, il va falloir s'organiser. Alors ils se sont organisés en un espèce de groupe de best-of, on va dire, de best-of de toutes les équipes, de toutes les différentes équipes de skin, qui s'est appelé le JNR, Jeunesse Nationaliste Révolutionnaire, qui allait devenir le service d'ordre de tous les groupements d'extrême droite.
Qui était, rattaché au MNR de l'époque, qui était le parti de la troisième voie, donc c'est une vraie entrée dans la politique.
Mesdames, Mesdames, Messieurs, nous poursuivons donc notre promenade sous les monuments importants de Paris. Récapitulons donc. Nous avons vu la Grande Bibliothèque, le ministère des Finances, le Palais de Justice, et maintenant apparaissent à votre droite, à votre gauche, les grandes sociétés de l'audiovisuel français. Et déjà, derrière nous, la statue de la Liberté.
Voilà pour le premier épisode de l'épopée des chasseurs de skin. Avec ce film réalisé en 2008 par Marc-Aurèle Vecchione, vous avez pu entendre dans les extraits les protagonistes de l'époque, à savoir les membres des Red Warriors, des Ducky Boys ou des Roddy Fox. Comme vous avez pu l'entendre, ça blaguait pas, la violence était la forme principale de la riposte du mouvement Antifa aux agressions des skins. Coup pour coup, dent pour dent, ça a marché puisque les skins ont fini par quitter les rues parisiennes vers la fin des années 80. Ça, ce sera la semaine prochaine. C'était À la recherche du groove perdu. Podcast sur le site www.rdwa.fr à la rubrique émission musicale. Je vous souhaite une bonne semaine. Ciao.